Je ne sais pas si vous avez suivi l'affaire de la comète de l'année dernière. Personne n'a vu ça. Au mois de novembre, une comète est rentrée dans le système solaire. On l'a appelée du nom de Ison, I-S-O-N, qui se prononce Ison en anglais, et qui découle de la racine d'un mot hébreu qui veut dire amer, amertume, absinthe. Cette comète a atteint son maximum de l'ellipse le 28 novembre. Elle a tourné autour du Soleil. On croyait qu'elle avait disparu, mais elle a décuplé son énergie et elle est partie en sens inverse, laissant derrière elle une traîne de 17 millions de kilomètres qui n'est rien dans l'espace. Mais cette traîne était remplie d'énormes blocs de météorites. Jusque-là, tout va bien. Et voilà, entre le 6 et le 26 décembre, la Terre, dans son parcours, a traversé cette traîne de la comète et aurait pu être bombardée par des blocs météorites. Et c'est là que j'ai vu ça sur le net, sur YouTube, que tout le monde a dit « Le Fils de Dieu revient ». Et s'il y a une météorite qui tombe, comme c'est dit dans Apocalypse chapitre 8, ça va polluer les rivières, la mer, et tout sera imbuvable. Ça, c'est pas produit, n'est-ce pas? Mais si c'était vrai, si c'était vrai, qu'aurions-nous fait? Ça aurait été immédiat. Alors, j'avais lu l'histoire de Lot, qui lui aussi s'est fait surprendre par l'immédiat. Alors je vais faire un survol de l'écriture pour ne pas être trop long. Je commence par Genèse 12. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Genèse 12, 4, Abraham partit comme le lui avait dit l'Éternel et Lot partit avec lui. Genèse 13, verset 5, Lot qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Verset 8, Genèse 13, Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait pas de dispute entre moi et toi, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il donc pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Genèse 13, verset 10. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain entièrement arrosée comme un jardin de l'Éternel. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Genèse 18, verset 20. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. Genèse 19. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir et Lot était assis à la porte de Sodome. Puis il dit, entrez dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Genèse 19, verset 5, ils, les sodomites, appelèrent Lot. Où sont les hommes qui sont venus chez toi cette nuit? Amène-les pour que nous couchions avec eux. Verset 9, les sodomites dirent, voyez-moi cet individu, il est venu comme étranger et maintenant il veut jouer au juge. Preuve quand même que Lot avait un certain témoignage. Les anges dirent à Lot, qui as-tu encore ici? Gendre, fils, fille, tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu, car nous allons détruire ce lieu parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Levez-vous! Sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant « Lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui et sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et Gomorre du soufre et du feu. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham et il fit échapper Lot du milieu du désastre par lequel il bouleversa les villes où Lot établit sa demeure. Luc 17, verset 28. Comme il en fut au jour de Lot, les gens mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient, même, je rajoute, regardaient les cieux, parce qu'il y avait aussi des comètes du temps de Lot. Ainsi qu'il en ira de la même manière le jour où le Fils de l'homme se révélera. Une autre lecture, 2 Pierre, 2e épître de Pierre, chapitre 2, versets 7 et 8. Lot, cet homme juste qui était consterné par la conduite immorale des habitants débauchés de ces villes. Car en les voyant vivre et en les entendant parler, cet homme juste qui vivait au milieu d'eux était tourmenté jour après jour dans son cœur intègre à cause de leurs agissements criminels. Et enfin, Agée, le prophète Agée, versets 2 à 4, « Les gens de ce peuple, le peuple d'Israël, prétendent « Le temps n'est pas encore venu, le temps où le temple de l'Éternel doit être rebâti. Est-il temps pour vous d'habiter à votre aise des maisons lambrissées, alors que le temple est en ruine ?» Jésus compare la génération de Lot à la nôtre et nous interpelle sur quel chemin, dans quelle orientation, quelle disposition sommes-nous? Pourquoi dit-on que le temps du jugement n'est pas encore venu? Revenons à la case départ. Abraham a entendu l'appel de Dieu à quitter la Babylonie, une civilisation très évoluée à l'époque, quitter confort, maison, famille, toutes les attaches, en somme, quitter, comme on dit, la proie pour l'ombre. Son neveu Lot l'accompagne. Il n'était pas obligé de partir parce que l'appel de Dieu n'a été adressé qu'à Abraham et non pas à Lot. Mais Lot a eu le même élan de foi. Moi aussi, je veux participer à la bénédiction divine. Et ils sont partis ensemble. Ils ont marché ensemble tout un temps. Rien ne les différenciait. Mais dans le moment où ils furent contraints de se séparer, ces chemins parallèles vont diverger. Abraham demande à Lot de choisir. Et il est écrit, Lot leva les yeux. Et dans la Bible, lever les yeux est une forme de prière, c'est faire appel à Dieu. Dans le psaume 121, il est écrit « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me vient le secours ?» Alors que je suis devant un choix important, je ne veux pas me tromper, Seigneur. Montre-moi le chemin. Conseille-moi. L'autre aurait dû faire cette prière. Il ne l'a pas faite. Il leva les yeux sur ce qu'il y avait autour de lui. Une vue magnifique, une région irriguée, verte, fertile, il est séduit. Lot savait que les habitants étaient corrompus, mais il a tout de même choisi cet endroit. Notre société occidentale, vous le savez bien, attire les foules. Grâce à toutes les prestations sociales, techniques, médicales, avec les médias, les drives, les temples de la consommation, les parcs de loisirs, ça ne transforme pas notre société en un paradis, hein, on est d'accord. Mais c'est agréable, tout est à notre disposition et Dieu devient le grand inutile. Aimer les facilités, aimer le plaisir est une caractéristique des temps de la fin et ce temps est résolument en marche aujourd'hui. Et lorsqu'on insiste de sortir de ce système, de ne pas s'y fier, de ne pas s'y installer parce que Dieu va le détruire, ben on ne croit pas. On est tellement bien. L'autre leva les yeux. Sur quoi levons-nous nos yeux? Venons-en aux conséquences. Comment concilier les inconciliables? Levez les yeux vers tout ce qui est à notre disposition pour en profiter. Cependant, parce que l'Écriture le déclare, nous connaissons les liens idéologiques et toutes les puissances des lieux célestes qu'il y a derrière toutes ces choses, n'est-ce pas? Rien n'est neutre. Le risque zéro n'existe pas et il n'existe aucun seuil en dessous duquel il n'y a pas de risque. Oh, mais l'autre croit avoir trouvé la solution. Il planta ses tentes jusqu'à Sodome. Il est dans un entre-deux, n'est-ce pas? C'est un compromis. Une soi-disant solution de sagesse. Ben, c'est un chrétien équilibré, comme on dit. Ce n'est pas un fanatique comme Abraham, qu'il considérait d'ailleurs avec commisération. Ah, le pauvre oncle! Il y a des chrétiens équilibrés, je mets entre guillemets, qui savent doser les choses, prendre ce qu'il y a de bien en se gardant des excès. L'autre est dans ses tentes, c'est-à-dire qu'il n'est pas installé, mais il est proche de la ville. Il peut faire ses courses à Cora, je ne dis pas que c'est pas bien, hein. Je ne dis pas ça. Il peut aller au cinéma, il peut aller au théâtre, il y a des divertissements de 7 à 97 ans. Et cette spiritualité équilibrée est souvent une hypocrisie, parce qu'il faut rendre l'homo economicus, l'homme consommateur, il faut le rendre attrayant pour atténuer la gravité du péché et sculpter ainsi un Dieu gentilé. Mais c'est mieux comme le monde. On a toujours voulu faire de la trompette qui avertit un bon divertissement. En réalité, c'est le plus sûr chemin de l'enfer. Et les années passent. Et les années passent. Plus tard, Dieu parle à Abraham. La corruption de Sodome a atteint son comble. Et dans la Bible, il y a de nombreux textes qui parlent du comble du péché. Lorsque Dieu fit alliance avec Abraham, il a plongé Abraham dans un sommeil, hein, où Abraham avait découpé les animaux en deux parties, l'Éternel est passé au milieu, et l'Éternel lui a dit, tes descendants iront comme esclaves en Égypte pendant 400 ans. Pourquoi la Bible dit, c'est Genèse 12 je crois, parce que le comble du péché des Amorites n'est pas encore atteint. Quand les Hébreux vinrent en Canaan, dans la terre promise, les peuples cananiens avaient atteint un comble du péché. Bien plus tard, Manassé, le fils du roi Ézéchias, a péché à un point tel qu'il a atteint un comble et la colère de Dieu est devenue sans remède. Jésus dit aux pharisiens, Matthieu 22, « Mettez le comble à votre péché. » La Bible déclare que Dieu est miséricordieux, il est lent à la colère, il est patient, et on croit que Dieu est faible. Mais cette patience est mal comprise. Il est patient pour que nous puissions encore nous repentir, car il ne nous punit pas selon nos fautes, psaume 103. Cependant, cette patience, le temps de la grâce, a des limites que nous ne connaissons pas. Et le péché de Sodome est tellement grave que la ville doit être détruite. Connaissant Dieu et voyant le désastre venir, Abraham intercède. Et sans l'intercession d'Abraham, Lot n'aurait peut-être pas échappé. L'intercession pour les uns et pour les autres est un bienfait qui a du prix aux yeux de Dieu. Les anges viennent à Sodome et les Sodomites commettent un premier péché. Ils n'exercent pas l'hospitalité. Un voyageur dans le désert doit être assuré d'être accueilli partout où il trouve un campement, village ou ville. C'est la seule condition de survie dans le désert. Et les habitants auraient dû se disputer pour avoir l'honneur d'accueillir ces visiteurs, mais c'est l'inverse qui se produit. Lot est le seul qui les accueille. Ce qui est curieux, c'est que Lot, qui était sous des tentes, est maintenant à l'intérieur de la ville. Ah, il a réussi, socialement, économiquement. Il a construit une belle maison lambrissée, considérée comme un notable, même qu'il siège aux portes de la ville, c'est-à-dire au conseil municipal, peut-être même dans d'autres instances, le tourisme, énergie, transport, impôts. Ses enfants ont réussi. Ils ont des diplômes de l'université de Sodome. Ses deux premières filles ont épousé des jeunes gens, fils de notables, avec une bonne position. Et on voit bien que Lot a obtenu tout ce qu'il avait voulu lorsqu'il leva les yeux et qu'il a choisi non en fonction de Dieu et de sa volonté, mais en fonction de lui-même, tant qu'il met tout en marchant par la foi. J'ai vécu comme Lot. On choisit d'abord pour soi, en fonction de soi. Il y a toujours un piège dans cette position dite équilibrée. Et comme Lot s'est installé sous ses tentes vers Sodome sans y entrer, et bien beaucoup s'installent de cette manière et petit à petit sont happés par Sodome. Comment ? Par quel processus ? Inévitable, irréversible. Pierre dit, l'apôtre Pierre dit que Lot avait de grands combats. Il tourmentait son âme tous les jours. Et parce que Lot voulait rester juste, on a lu l'expression, il voulait jouer au juge, au Dieu des autres, il était partagé entre l'obéissance à Dieu et la corruption, et il n'osait rien dire. Et s'il avait ouvert la bouche, il aurait perdu sa place, sa position. Alors, comme on dit, il avalait une couleur tous les jours. C'est un homme de compromis. Il est peu fiable, utilisant le consensus mou. Et, disons-le, il est atteint du syndrome de la girouette. Et quand on est une girouette, mes amis, on n'en a pas. Le compromis, c'est la tiédeur spirituelle dont l'Écriture dit « Je te vomirai de ma bouche » parce que Dieu n'est pas un Dieu de compromis, mais de vérité. Lot accueille les deux voyageurs. Les sodomites, voulant leur faire subir les pires outrages, mirent le comble au péché. Le jugement devenait inévitable. « Qu'as-tu chez toi ? Épouse, fille, gendre, sors de la ville, car Dieu va la détruire maintenant. » Mais l'autre ne croit pas. Quoi ? Détruire ? Une si belle ville avec de si beaux édifices. Enfin, tu ne vas pas les croire. Tu ne vas pas les prendre au sérieux. Tu ne sais même pas d'où ils viennent. L'autre tourne en rond. Ces gendres croyaient que l'autre plaisantait. L'autre tourne en rond, il ne sait pas quoi faire, mais il pressent que c'est bien plus grave. C'est un drame et c'est immédiat. Après bien des hésitations, l'autre sort de Sodome. Il perd tout ce qu'il avait acquis avec peines et labeurs. Gaspiller les meilleures années de sa vie. Sa belle maison lambrissée, sa position de notable, démunie de tout. Ces deux filles et ces gens sont restés parce qu'ils n'ont pas cru à la parole des anges. Sa femme, ne pouvant supporter que ses filles restent en arrière, se retourne et partage le sort des sodomites. Ses deux autres filles ont elles aussi emporté quelque chose de Sodome en commettant l'inceste avec le père. Lot, rescapé du désastre, est sauvé, mais comme au travers du feu. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, il a dit « Dieu éprouvera l'œuvre de chacun ». Ça me fait dresser les poils, ça me fait figer le sang. Venons-en aux leçons. Installés dans les Sodomes de ce monde, nous avons peu ou très peu conscience des temps dans lesquels on vit et on dit. Le temps du jugement n'est pas encore venu. La comète Haïn est repartie. Mensonge ! Les disciples vont remarquer à Jésus le magnifique édifice du temple. Ah, quelle gloire pour ce bâtiment ! Et Jésus dit, il sera détruit. Quoi ? Détruire ? Quand ? L'autre pensait être intelligent pour concilier l'inconciliable. Avoir le paradis de ce monde et la justice de Dieu. Sa justice n'était pas suffisante pour démontrer sa foi. Alors il aimait bien avoir des titres pour être recommandable. Sa notoriété, sa respectabilité, sa position sociale, un vedettariat. Bien des serviteurs de Dieu ont perdu ainsi leur impact spirituel. C'est un piège qui éteint le feu de la consécration et fait perdre la faculté de discernement des temps. C'est une trompette de recul. Dites-moi, l'Évangile a-t-il besoin d'être recommandé? Jésus-Christ a-t-il besoin d'être recommandé par des titres? La justice de Lot ne dépassait pas celle des scribes et des pharisiens. Et Jésus dit bien, si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume. Lot était un juste qui a fait le minimum pour être sauvé, comme il y a des chrétiens du minimum. Mais il n'était pas au standard de Dieu, de l'Écriture, pour échapper aux choses dernières et paraître un jour debout devant le Fils de l'homme. L'autre choisit le chemin facile sur lequel marchent tant d'hommes et de femmes. Vous savez, on peut toujours justifier sa conduite et la couvrir d'un vernis spirituel au travers de versets bibliques tirés hors de leur contexte. Mais la réalité est autre et c'en est un autre qui dirige les événements. Alors on cherche des chemins nouveaux, faits de spiritualité équilibrée, parce que la vérité brute de l'Évangile, la croix, est choquante et rejetée en tant que folie. Or c'est là que réside la puissance de son message. Abraham a choisi le chemin étroit, resserré, avec ses adversités face aux Cananéens et ses sacrifices, sa vie de foi, sa dépendance de Dieu. C'est pas vraiment facile. Il n'a pas cherché à réussir. Il ne vivait pas dans une suite 5 étoiles, pas de demeure lambrissée, et vivait sous des tentes étrangers et voyageurs, remplissant sa mission. Il était d'arpenter la terre promise et d'y dresser des autels. Mais Dieu pourvoyait à tous ses besoins et l'a béni au-delà de toute mesure. À la fin de sa vie, il n'avait qu'une possession funéraire. Il n'avait rien ici-bas. Mais il a tout dans le royaume de Dieu. Ésaïe l'appelle Abraham, l'ami de Dieu. Alors, frères et sœurs, ce n'est pas le chemin qui est difficile. C'est le difficile qui est le vrai chemin qui mène à la gloire. Et puis, l'Écriture déclare formellement, J'ai mis devant toi deux chemins, le large et l'étroit, la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, construit sur le roc de l'Écriture, car le chemin large mène au néant, à la non-vie. Ce même choix est placé devant nous encore aujourd'hui, devant moi. Si tu choisis le chemin étroit, si tu écoutes, si tu mets en pratique, et ce mot-ci est essentiel, mais tellement dérangeant, n'est-ce pas? Ce n'est pas une obligation. Dieu ne contraint personne, ce n'est qu'une condition. Et puis l'Écriture déclare encore qu'il y a l'Esprit et la lettre. Jésus dit dans Matthieu 9, verset 13, « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. » Et là, dans ce verset, Jésus cite le prophète Osée, chapitre 6, verset 6, qui compare le sacrifice à une piété formaliste, à la rosée qui s'évapore rapidement, c'est-à-dire une vie selon la lettre ponctuée par des rituels pour paraître juste. Cette justice n'est vécue que sur les lèvres et ne vient pas du cœur. Osée va même un peu plus loin, il est courageux et culotté, il dirait dans Osée chapitre 7, verset 8, il dit, Osée dit, il parle d'un gâteau qui n'est pas retourné, cuit seulement d'un côté, c'est le donner à Dieu que l'extérieur. Mais c'est cru et indigeste. C'est l'autre et c'est moi. Alors ne nous arrêtons pas à la lettre, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Seule l'œuvre de Jésus-Christ rend libre, nous délivre de nous-mêmes, de notre mauvaise nature, des convoitises charnelles, de nos penchants, qui ont entraîné Lot là où il a fui. Ce n'est que dans la présence de Dieu que Lot a tant négligé finalement que nous comprenons que nos excuses sont de piètres oripeaux. Le temps du jugement n'est pas encore venu, dit-on. Mensonge, mensonge des faux prophètes. Dieu envoie encore des anges dans les Sodomes de ce monde, disant, levez-vous, fuyez la corruption, sortez d'entre ces gens, ne les imitez pas, ne vous collez pas dans leur moule, saignez vos reins, prenez le bâton à la main, les sandales aux pieds, prêts à tout moment pour aller à la rencontre du Seigneur, pour le servir, lui, parce qu'il en est le seul digne. Est-ce le temps pour nous de construire de belles demeures lambrissées, c'est-à-dire de s'installer, de chercher la réussite selon les critères de cette société vouée à la réprobation, de lever les yeux vers nos Sodomes et de choisir comme Lot en fonction de soi-même, pour soi-même? C'est le monde nouveau du royaume de Dieu qui vient, qui doit dicter les exigences. Et parce que nous sommes à la fin des temps, parce que le retour de Christ est imminent, parce que le jugement va venir aussi sûr que l'aube vient après la nuit, il est temps de se remettre en question, d'être prêt à couper sa main, d'arracher son œil, comme le dit Jésus, s'ils sont une occasion de chute, afin d'entrer dans le royaume de Dieu debout, devant le souverain sacrificateur ressuscité. Y a-t-il un choix radical à faire? Le jugement est à la porte, c'est maintenant. Est-ce que nous comprenons le temps dans lequel nous vivons? Est-ce que nous adaptons notre conduite, nos priorités, nos orientations, nos réflexions? Amen. Seigneur, notre Père, en Jésus-Christ, tu nous as rassemblés ce matin autour de ta parole. Nous te remercions parce que tu nous parles, tu me parles, au travers de cet exemple de Lot, qui n'a pas discerné les temps dans lesquels il vivait. Et ces temps sont encore là. Croyons que ton retour est proche. Aide-nous, Seigneur, à vivre selon les standards de l'Écriture, selon ce que tu nous as enseigné, afin que nous soyons les témoins vivants, prêts un jour à aller à ta rencontre, debout devant le souverain sacrificateur ressuscité. Je te prie pour les frères et sœurs qui sont ici, que tu les remets. Bénis-les, Seigneur, garde-les ensemble, unis par le lien de la paix.